territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau, Nabassaran.
Pendant ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Nabassaran, et soyons unis.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue à vous pour ce 4e épisode de notre série Village de l'eau. Formidable événement accueilli en juillet 2024 par la commune de Mel et organisé sur place par Bassine Non Merci avec une multitude d'autres collectifs, dont des scientifiques en rébellion avec lesquels nous allons passer l'heure qui vient. Les sciences pour désarmer les méga-bassines, mais pas seulement les méga-bassines. Sur le village de l'eau, sur l'un des pôles associatifs, parce qu'il y en a un peu partout, cette grande bannière, scientifique en rébellion. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Tu es un scientifique en rébellion.
En effet, là le collectif scientifique en rébellion, il existe depuis à peu près 2020, date à laquelle un groupe de scientifiques ont fait paraître une tribune dans Le Monde qui appelle en fait à sortir des labos pour pouvoir réinjecter un petit peu plus de consensus scientifique dans les débats politiques. Et éventuellement, si c'est nécessaire, utiliser des actions directes de désobéissance civile pour pouvoir forcer un petit peu le débat.
Scientifique en rébellion, c'est un collectif ?
Oui, tout à fait, c'est un collectif qui a beaucoup grossi depuis. Aujourd'hui, sur le village de l'eau, on est juste une vingtaine, mais dans le collectif en général, on a une bonne centaine quand même d'actifs et on a 500 membres déclarés. Et au-delà de ça, on a aussi un réseau en fait, de sympathisants, beaucoup dans le milieu universitaire, qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous conseillent.
Quand on dit scientifique, c'est science dite dure ou science sociale aussi ?
Moi, je préfère le terme de science naturelle, même s'il n'est pas non plus parfait. On a aussi des sciences sociales, mais ici aussi dans le collectif, on élargit quand même le concept de scientifique. On a plein de disciplines, on a plein de statuts différents. Hein. Tout le monde n'est pas enseignant-chercheur. On a des ingénieurs, on a aussi quelques professions médicales. Mais en fait, on accueille un peu tout individu qui se reconnaît dans la formation scientifique, dans la méthode scientifique, qui est capable d'en parler correctement. C'est vrai qu'on a quand même une teinte universitaire assez forte. Alors le collectif, je disais, c'était en France suite à l'appel de 1000 scientifiques dans une tribune du Monde justement à exhorter les gens de sortir de leur labo. 2020, après il y a eu une petite accélération d'on va dire 2022 quand on a commencé à se rapprocher d'une branche internationale qui s'appelle Scientist Rebellion, où là on s'est fait un peu plus connaître à travers des actions un peu médiatisées. Hein. Là, on a grossi en nombre et en présence dans les différents cortèges militants. Et aujourd'hui, c'est encore en croissance.
Dans le collectif, est-ce qu'il y a des scientifiques qui appuient des luttes environnementales en apportant des données ?
Complètement, ouais, je pense que c'est l'une de nos finalités. En tout cas, aujourd'hui, c'est là où on est les plus utiles, j'ai l'impression. Donc, on vient appuyer effectivement les combats d'autres collectifs. Après, pour être complètement honnête, on vient leur donner une caution scientifique dont ils n'ont pas toujours besoin. C'est-à-dire que moi, quand je vois les collectifs, enfin, beaucoup de mouvements, Extinction Rebellion, les soulèvements de la Terre, Greenpeace, Alternatiba, je veux dire, les gens, les militants qui organisent ces actions, ils ont une connaissance pointue, généralement, du sujet qui leur donne en fait toute légitimité déjà pour l'action. Tant mieux si derrière, les scientifiques institutionnels peuvent venir en attester.
Le sacro-saint diplôme est aussi une arme de propagande et de dissuasion vis-à-vis d'un public qui pourrait être incrédule. Je veux dire, quand on affiche justement la blouse blanche et le titre.
En tout cas, il y a une volonté de jouer avec les outils institutionnels, ça c'est sûr. L'institution nous a mis là, maintenant on prend nos responsabilités en venant donner de la légitimité à ces mouvements.
Les scientifiques en rébellion peuvent fournir des travaux, des recherches pour appuyer des luttes. Quelles luttes par exemple en France ?
Là dernièrement, il y a eu pas mal de luttes qui ont accaparé l'attention des médias. Les scientifiques en rébellion étaient souvent là. Hein. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur la 69. Et en fait, il y en a plein d'autres. On s'intéresse à peu près à tous les gros sujets de société brûlants. Après, ça peut être aussi parfois des choses qui sont moins dans la lutte, plus dans le quotidien, politique, institutionnel, comme par exemple des prises de position lors des différents scrutins qui ont eu lieu, que ce soit législatives européennes ou législatives en France. On était présents. On est présents dans le paysage, notamment dans le paysage militant, et on espère l'être de plus en plus.
Les gens qui parlent là-dedans sont des scientifiques diplômés. Alors après, on pourra gloser des années sur la valeur d'un diplôme symbolique ou autre. Enfin, dans Les Scientifiques en Rébellion, il n'y a pas des ozos qui racontent n'importe quoi.
Précisément, ouais, je suis content que vous le disiez. Au-delà du diplôme, il n'y a pas seulement le diplôme, en fait, il y a l'interaction scientifique avec les pairs, les postes qu'on occupe, que l'institution a bien voulu nous confier. C'est donc une forme de confiance et de reconnaissance pour notre travail, notre capacité justement à appliquer la méthode scientifique. C'est un point, pas central, mais important dans notre positionnement. On légitimise d'une certaine manière des actions de désobéissance civile, mais avec l'étiquette scientifique. Cette étiquette scientifique, elle est importante pour nous à pas mal d'égards. Notamment, cette confiance que l'institution et que finalement la société a posée en nous, elle nous pose aussi une responsabilité. Et donc en tant que scientifique ici, il est de notre responsabilité de ne plus se contenter documenter l'effondrement du vivant, documenter le réchauffement climatique et ses conséquences. On voit bien qu'il y a un problème de prise au sérieux et de vision globale du consensus scientifique dans le débat politique. Et donc, en fait, il est de notre responsabilité d'aller plus loin pour pouvoir pousser nos tutelles, pour pouvoir pousser la vulgarisation auprès des citoyens, pour pouvoir pousser l'information, quitte à sortir des labos, quitte à pratiquer la désobéissance civile, enfreindre les lois parfois.
Dans ces savants et ces savantes, il y a des êtres humains parfois scandalisés par le fait que la planète brûle.
Ouais, ouais, alors ce qui est sûr, c'est que c'est pas nouveau. Hein. Des scientifiques engagés, il y en a eu, j'ai envie de dire, de tout temps. Être scientifique, c'était déjà être engagé. Hein, je parle d'époque un peu obscurantiste, hein, moyenâgeuse. Même dans une époque plus moderne, on avait déjà des scientifiques qui alertaient un peu sur les finalités de la recherche. On a eu beaucoup de scientifiques, tout un mouvement anti-nucléaire. On a eu Grothendieck qui posait carrément la question, hein, doit-on continuer la recherche? C'était dans les années 70. Aujourd'hui, avec l'ultra-spécialisation, le scientifique, il est devenu vraiment un peu au même titre que beaucoup de rouages dans la société, un rouage de plus dans un système qu'il ne contrôle pas, donc il ne contrôle pas trop les tenants, les aboutissants. On garde une certaine marge de manœuvre sur... on a une certaine liberté académique, aussi sur notre façon d'enseigner, etc. On n'en est pas moins, en fait, aliéné hein, à ce système dans lequel on ne sait pas où va notre connaissance, et en tout cas, on ne le contrôle pas. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même relativement nouveau, c'est quand même plus dans les dernières décennies qu'on a ressenti une telle spécialisation et en fait une telle aliénation du travail du scientifique. Donc effectivement, le consensus majoritaire en termes de comportement social, il est celui-ci. Il est « je suis un scientifique, je développe ma recherche dans mon coin en essayant de trouver mes financements là où je peux, le reste, ce n'est pas de mon ressort. » Et donc cette attitude-là, elle accompagne une espèce d'imaginaire que la science, elle est neutre, elle est une sorte de recherche absolue de la vérité, indépendamment de ce que ça peut vouloir dire pour les sociétés humaines, qui est un imaginaire en fait qui est complètement erroné, qui est un imaginaire en fait qui omet ne serait-ce que le développement de l'institution scientifique, qui omet les discours même des dirigeants des très grands centres de recherche type CNRS, qui eux-mêmes vous expliquent que le développement de la science, il faut qu'il aille servir l'économie, il faut qu'il aille servir la compétitivité du pays, qu'il aille servir sa grandeur militaire. Ça, ce sont des projets qui sont politiques, c'est pas simplement la recherche abstraite de la vérité. Donc ce mythe, il est très bien implanté, et aujourd'hui encore, malheureusement, et si je peux rassurer le système destructiviste, c'est pas demain qu'on va l'abattre. C'est-à-dire qu'effectivement, la plupart des collègues, ils ont du mal à sortir de cette posture. Ils sont pas à l'aise avec les discours qui assument leur position, on va dire leurs valeurs, parfois leur position politique, justement à la recherche de cette neutralité qui n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre parler au nom de toute l'institution scientifique, par exemple en France ou dans le monde. Par contre, on prétend être une force de réflexion, un contre-pouvoir et une force de développement finalement de recherche en soi, puisque ça reste en fait à découvrir et à redécouvrir comment, dans le système tel qu'il est, la recherche scientifique peut-elle encore être utile à l'humanité, comment elle peut être encore utile au débat politique. En fait, c'est une grande inconnue, parce que si on se contente de suivre encore les positions qui sont technocratiques, en fait, on le voit bien, hein, d'où viennent les financements de la recherche, comment se développent les modes, et puis encore une fois, notre responsabilité dans le système technophile qu'on a développé, si on se contente de faire ça, alors oui, là, on ne fait que alimenter le statu quo, et on le sait, c'est documenté scientifiquement, paradoxalement, c'est la science qui nous l'apporte, qui nous dit que ça, c'est au détriment de toute l'humanité.
En plus de l'idéologie, tu as mentionné aussi une raison très pragmatique sur l'indépendance du scientifique, qui est avant tout un être humain qui a peut-être des factures à payer, un frigo à remplir, des enfants à nourrir, etc. Soit, en fait, tu disais qu'il y a encore une relative ou une certaine liberté académique qui semble quand même se rétrécir en peau de chagrin. Il y a aussi des groupes privés qui peuvent aussi financer des labos. Il y a peut-être aussi des tas de collègues qui sont révoltés, mais qui ont peur de perdre leur job.
Alors, c'est toute la question de combattre le système de l'intérieur ou de l'extérieur, ça. Hein. À partir du moment où on accepte de faire société Eh bien oui, il faut aussi combattre le système de l'intérieur, sans chercher à l'abattre, au contraire, mais en cherchant à le faire évoluer. Donc effectivement, parmi les collègues, en fait, on est tous des premiers de classe. Hein. On est formatés à ça. Il est juste venu à certains moments dans notre vie, parfois d'un coup, parfois progressivement, des réalisations sur en fait notre position sociale, sur effectivement notre utilité sociale et...
Notre responsabilité.
Responsabilité, le mot est vraiment fort. Hein. Mais il n'y a pas que nous, bien sûr, je ne prétends pas que la science, surtout pas. Mais justement, notre responsabilité dans la situation... Eh ben, on ne sait pas trop y faire. Hein. Quand on est formaté à être des premiers de la classe, à bien suivre les règles, effectivement, ce n'est pas naturel. Donc là, c'est tout un contre-pouvoir à construire et on s'y attelle avec peut-être beaucoup d'erreurs et quelques victoires. Mais c'est ça qui compte. C'est que les quelques victoires, elles sont vraiment prépondérantes pour pouvoir faire le contre-pouvoir nécessaire.
J'imagine que ça ne va pas être facile de monter son propre labo. Enfin, ça doit dépendre des disciplines.
J'ai quand même envie de mentionner Yamina Saheb, donc une des co-autrices du dernier rapport du GIEC, qui aujourd'hui monte un laboratoire d'études sur, en gros, la décroissance. Mais l'idée, c'est effectivement d'étudier les impacts d'une position décroissantiste, au moins au niveau du PIB, sur les sociétés humaines. Donc ce genre de laboratoire, effectivement, ça n'a pas pignon sur rue. Et pour trouver des financements qui soient publics ou privés, n'en parlons pas. Donc ça pose des vraies questions, comment on s'organise, comment on fait ça. Ben, je pense que ces expériences-là vont nous le dire, quoi. Et je pense que c'est possible. Ce ne sont pas des initiatives dans le vide. Même les initiatives de ce style qui seront des échecs, en fait, ce seront des tremplins pour la suite. Parce que, encore une fois, la recherche scientifique, il ne faut pas l'arrêter dans l'absolu. Il faut juste réussir à trouver le moyen d'en faire quelque chose de positif dans notre société.
Quelle est ta discipline, toi ?
Moi, ma discipline de spécialisation, c'est les mathématiques appliquées. J'ai fait beaucoup d'informatique. Aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur en informatique. Quand j'ai la chance de pouvoir faire de la recherche, c'est dans le domaine très général de l'intelligence artificielle, qui est aussi un sujet très, très brûlant, hein, qui est aussi un sujet qui demanderait vraiment une réflexion de la société sur l'utilité, sur les tenants, les aboutissants, qui maîtrise ces technologies, dans quel but, et qui mériterait aussi quelques rappels fondamentaux et typiquement sur les conséquences environnementales du développement de ce genre de modèle. Aujourd'hui, je ne sais pas par quel tour de passe-passe les grands décideurs politiques ont réussi à faire passer la pilule que les outils numériques sont une bonne solution pour résoudre beaucoup de problèmes environnementaux. Je ne sais pas comment c'est possible parce que si on regarde les chiffres sur la dernière décennie et si on regarde les prévisions, c'est exactement le contraire qu'on voit. C'est typiquement le genre de choses, vous voyez, dans mon domaine aussi, il y a énormément de choses à dire directement. L'IA, c'est un gros mot, mais on va garder ce terme pour cette discussion-là. Il y a plein de questions que ça pose. La toute première question, en fait, avant même de parler de ce qu'on en fait, comment c'est fait ? Et en fait, aujourd'hui, on a encore malheureusement cette notion que le numérique il est dématérialisé. Vous avez eu la chance d'avoir Stop Micro qui a dû vous expliquer en long, en large et en travers que ce n'est pas du tout le cas, que d'ailleurs, ça pose des problèmes notamment sur les ressources en eau, mais pas seulement. Ce développement-là, il est une contrainte supplémentaire sur le système Terre et sur nos sociétés.
Beaucoup de centrales nucléaires pour faire tourner tous ces ordinateurs,
oui,
ces serveurs.
Ouais,
et puis aller extraire les matériaux, et puis dans quelles conditions sociales, etc. Enfin, là, vous tirez un fil qui va vous faire découvrir des choses vraiment terribles. Ensuite, la deuxième chose, c'est pour quelle finalité ? La plupart en fait, des systèmes d'intelligence artificielle, ils sont développés essentiellement à des fins marketing, à des fins de surveillance.
Et puis supprimer des emplois, surtout des salaires.
Alors, supprimer des emplois, dans l'absolu, moi, si une machine est capable de remplacer du travail humain pour quelque chose de bien, je ne vais pas le dénoncer sous cette forme. Si ça veut dire derrière que l'humain, lui, il est rejeté au rebut de la société, là, effectivement, ça pose des énormes problèmes. Moi, si on enlève du travail humain, moi, je suis content en tant que l'humain peut vivre. Non, ce qui m'intéresse le plus, c'est les applications directes, hein, qui sont de l'ordre de la surveillance, qui sont de l'ordre du fichage, qui sont de l'ordre militaire. Bon, ce n'est pas les seuls, mais c'est beaucoup ça. Pendant que l'arbre qui cache la forêt, c'est la surveillance satellitaire justement des forêts ou des territoires et qu'on prétend qu'avec ça, on va pouvoir régler des problèmes environnementaux, ce qui reste à démontrer. Et en fait, derrière cette question de la finalité, il y a la question de qui en est capable. C'est ça, en fait, le plus angoissant. Parce que qui en est capable, on le voit aujourd'hui, en fait, il n'y a pas besoin d'attendre demain, c'est déjà le cas. Les États-nations ne sont déjà plus capables de suivre les grandes entreprises, les multinationales privées, qui sont en fait le fer de lance de ces technologies, qui doivent juste s'assurer de pouvoir faire tomber les quelques barrières législatives à l'utilisation massive de données, et en fait qui derrière ont vraiment le contrôle total sur ces technologies. Et même en termes de recherche fondamentale, aujourd'hui, la recherche publique commence à être dépassée, et on le constate entre collègues. Et donc la dernière chose, là on parle vraiment de la dystopie, hein, mais au même titre que beaucoup d'autres choses, l'intelligence artificielle est elle-même une menace existentielle pour l'humanité. Bon, là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus spéculatif, mais le fait de ne pas pouvoir être capable de poser ces choses-là sur la table, le fait de ne pas pouvoir en débattre sainement, de ne pas pouvoir faire un moratoire sur la technologie, sur cette technologie-là comme il en faudrait sur beaucoup d'autres technologies, ça montre bien qu'il y a un gros problème de gestion de ce que fait la science, de ce qu'est capable de fabriquer la science.
Pour Terminator, il manque juste ce voyage dans le temps, mais sinon on y est presque. Bon, c'est le débat que Kubrick posait dans 2001, l'Odyssée de l'espace.
J'aime pas trop exagérer là-dessus, parce que pour moi, on a bien d'autres défis à régler avant, qu'on n'oublie pas que ça existe aussi.
On parle d'armes autonomes, enfin je te dis ça, parce que quand à France Inter, ils ont dit « Ouais, ils sont en train de se réunir là mondialement pour savoir si... » Mais non, on va pas lâcher des armes autonomes comme ça, il y aura toujours quelqu'un derrière. Bah voyons donc.
Mais en fait, je ne vois pas quel mécanisme institutionnel empêchera le fait, l'avènement de l'arme autonome, si tant est que l'humanité survit suffisamment pour faire des bijoux technologiques aussi affreux. Aujourd'hui, il n'y a pas de système institutionnel qui empêchera que ça arrivera. Et puis, encore une fois, il ne faut pas être un génie pour comprendre que ce sera développé par des intérêts privés avant tout.
Sur ce village de l'eau, il y a cette grande bannière avec marqué « Scientifique en rébellion ». Bonjour Eva, j'ai trouvé un nid de scientifiques pas contents.
Oui, on est beaucoup, moi je fais partie des scientifiques en rébellion Nantes. Et moi je voulais te parler du mouvement pour les savoirs engagés et reliés, qui est un mouvement donc, composé de plein d'organisations, d'individus aussi, qui est super chouette, qui est assez diverse, et qui a pour objectif de relier tous les savoirs, les connaissances ensemble, et ça passe par relier les scientifiques en poste ou pas aux luttes sur le territoire. Ça s'appelle le Mouvement pour les savoirs engagés et reliés. On trouve assez facilement le site internet. Sur le site, il y a une cartographie sur laquelle et les luttes peuvent se manifester et les scientifiques, et comme ça on voit assez facilement au niveau local qu'il y a comme scientifiques qui pourraient nous apporter leur soutien aux luttes qu'on a sur le terrain. Parfois, c'est des personnes des athécopoles, des ateliers écopolitiques. Parfois, c'est des scientifiques en rébellion ou d'autres scientifiques qui ne sont pas forcément dans des organisations en tant que telles. Et on peut voir ceux qui sont prêts et qui sont disponibles, qui sont dans cette mouvance-là pour soutenir les luttes. Et inversement, les scientifiques peuvent, eux, voir et elles, où sont les luttes, qu'est-ce qui se passe sur leur territoire et avec qui ils pourraient rentrer en contact. Parce que c'est un milieu où, bien évidemment, il y a de la militance et il y a des personnes qui sont militants, militantes depuis longtemps. Mais il y a aussi des personnes qui se rendent compte de certaines choses, de dérives, mais où c'est pas forcément facile pour eux et elles de s'engager, de faire le premier pas, parce qu'on a cette pseudo-neutralité scientifique qu'on a inculquée aux scientifiques. Et donc, c'est pas forcément évident de faire le premier pas.
Il peut aussi y avoir une pression économique et à l'emploi. De nombreux labos de recherche censés être publics ont des financements privés parfois. Ça peut être aussi compliqué, je suppose, pour un certain scientifique de se rebeller contre l'employeur.
Tout est relatif. Hein. Les scientifiques qui sont en poste restent des fonctionnaires et sont quand même relativement peinards. Après, effectivement, c'est souvent de s'engager, ça peut amener à ne pas être valorisé ou à pas être bien évalué par ses pairs. Ça peut avoir des retentissements, bien évidemment. Et puis, on a la pression de publier certaines choses et pas d'autres. Il y a des sciences qui sont faites pour lesquelles il y a de l'argent et d'autres recherches qui sont non faites. Donc oui, ça existe, mais je pense que c'est à relativiser.
Bon, il y a besoin de gens qui arpentent le pavé, qui sont là, qui font des manifs, qui brandissent des banderoles. Mais il y a besoin de juristes et de scientifiques. Par exemple, là, pour on est donc sur ce village de l'eau, l'angle d'approche ou d'attaque, si j'ose dire, c'est les méga-bassines. Mais derrière, il y a tout un monde, le béton, enfin, toute une industrie qui n'est pas que agro. Il faut des compétences scientifiques, en fait, pour démonter ça. Voilà, sinon, on passe juste pour des espèces de gauchistes qui n'aiment pas le progrès. Or, non, il faut une expertise pour dire non. Par exemple, les méga-bassines, c'est absurde.
Complètement. On a besoin, d'où l'idée de faire la rencontre entre les deux. C'est des compétences qui sont super intéressantes, de comment on pose des questions, où on va chercher l'information, comment on fait la différence entre une information non seulement légitime, mais de qualité, avec une traçabilité et aussi objective que possible. C'est quelque chose qui est très simple pour les scientifiques. D'ailleurs, ils l'oublient souvent quand ils sortent du milieu académique. Ils oublient qu'ils ont ça comme compétence et qu'une grosse partie de la population ne va pas, comme ça, de prime abord, aller chercher dans les papiers scientifiques les informations à la source.
Mouvement, savoir, engagé, relié, tout ça au pluriel.
Oui.
C'est né quand et ça fonctionne comment? Ça opère comment?
Par exemple, il y a Sciences Citoyennes qui est une association qui a 20 ans. Et il y avait la Técopole Toulouse au début qui aussi a quelques années. Des personnes qui se connaissaient. Et la première chose qu'on a fait ensemble, c'était les états des sciences et techniques engagés à Nantes lors des universités d'été, des mouvements sociaux et des solidarités en 2021. Et en fait, c'était tellement chouette de faire ça ensemble, d'organiser cette journée, de se poser des questions sur le rôle des sciences et techniques dans le monde actuel, qu'on a continué à organiser des événements pour se rencontrer. Et le mouvement est né au moment où on a voulu organiser quelque chose de plus grand et on a organisé les premières journées d'été des mouvements engagés et reliés à Lyon en 2022, qui était un super moment vraiment de rencontre entre profils très diversifiés, entre les associations, les syndicats, les scientifiques. Vraiment, c'était très mixte et super sympa. Et on en réorganise en octobre, le 10, 11, 12 octobre prochain. Donc s'il y a des personnes qui ne sont pas trop loin de Lyon et qui veulent venir s'informer sur comment les luttes orchestrent la création de la production de leurs connaissances et comment les luttes s'appuient sur les scientifiques pour le faire et quel est le rôle des scientifiques dans justement ce que tu disais, quels projets on fait, quels projets on ne fait pas, comment on se mobilise contre des aberrations, c'est un super point de rendez-vous.
On en a vu hein, des jeunes gens qui disaient voilà, on a été diplômé de telle école prestigieuse, mais en fait on ne veut pas collaborer à ce système mortifère. C'est aussi valable en science. Est-ce qu'il y a aussi des jeunes scientifiques diplômés qui disent je ne me mouille pas dans la destruction de cette planète, je lutte contre avec mon savoir, nos savoirs.
Pas tous et toutes, mais y a une frange qui a par exemple, je pense à une personne qui a travaillé sur les bioplastiques et qui connaît tellement bien tout ce qu'il y a derrière qu'elle ne veut pas participer au développement de ces techniques. Donc ils ont et elles ont aussi une conscience poussée des dérives qu'il y a derrière et des non-sens que certaines technologies portent. C'est pas facile de s'insérer professionnellement pour ces personnes-là alors qu'elles ont fait déjà des études, un doctorat. Donc je les soutiens de tout mon cœur, mais il y en a, ouais, bien sûr.
On trouve de l'info sur internet.
C'est mouvement-ser.org. Et rejoignez-nous, c'est très cool, on a un super réseau. On se partage beaucoup les informations entre les différents réseaux qui veulent faire ce lien entre différents savoirs. C'est une chouette plateforme d'information.
Sur l'un des nombreux stands du village associatif du village de l'eau, ce stand avec cette grande bannière avec marqué « De l'eau, pas des puces » contre l'accaparement des ressources par les industriels de l'électronique. Et un stand avec des téléphones portables disséminés un peu partout, des composants électroniques et puis beaucoup de documentation. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Bonjour Emilien.
Bonjour.
On notera que les téléphones portables qui sont présents sont cassés, c'est des smartphones pétés. Et sinon c'est des cartes électroniques. Pour montrer les composants électroniques en fait, parce que nous on lutte contre des usines de microélectronique qui fabriquent ces composants-là, ces carrés noirs avec plein de pattes, qui servent notamment à ces smartphones.
On dirait des cartes d'ordinateur aussi?
Ouais, on trouve ça dans les ordinateurs, dans les objets connectés aujourd'hui, dans les voitures et dans les missiles en Ukraine aujourd'hui. On lutte contre l'agrandissement de deux usines dans la région grenobloise, ST Microélectronique et Soitec, qui produisent ces puces. Nous on a un collectif qui s'est monté en 2022, suite à l'annonce de l'agrandissement de l'usine ST Microelectronics, qui souhaite doubler sa production. Agrandissement qui actuellement est en cours, mais qui n'est pas encore en fonctionnement.
Pourquoi ce mécontentement vis-à-vis de cette usine de composants électroniques avec tous ces smartphones géniaux qui nous rendent tellement service?
Eh bien oui, nous on a beaucoup de choses contre ce progrès imposé. Localement, ça a plein de nuisances, ces usines. Premièrement, ça consomme énormément d'eau. Et en fait, ils sont installés là, notamment parce qu'il y a de l'eau très pure à Grenoble, qui vient des montagnes. Et que eux, en fait, pour fabriquer des puces électroniques, ils gravent sur des fines tranches de silicium, des circuits imprimés, et qui rincent régulièrement. Et pour ça, ils ont besoin d'une eau très très pure. Du coup, ils consomment énormément d'eau. En 2022, lors de l'annonce de l'agrandissement, il y avait des restrictions pour les agriculteurs, notamment les maraîchers, pour l'irrigation, mais certainement pas pour les usines.
On n'avait pas le droit d'irriguer les cultures, mais on pouvait irriguer les puces électroniques.
Voilà, nous, on juge qu'il y a un arbitrage foireux qui est fait. On voit bien qu'on ne va pas manger des téléphones portables et que nous, on préférait les tomates au téléphone. Par ailleurs, on se rend compte qu'ils polluent énormément l'eau parce que forcément, en fait, quand ils rincent ces plaques de silicium pleines de produits chimiques pour graver, l'eau se charge de plein de métaux ou de produits chimiques toxiques. Il y a plein de cuivre, d'azote, de plomb. de PFAS récemment, l'agence régionale de santé a dévoilé que ST était l'un des plus gros émetteurs de PFAS de la région.
Les PFAS, c'est ce qu'on appelle les polluants éternels.
Exactement.
C'est une très grande famille, il y en a des centaines et des centaines. Et c'est des trucs qui n'arrivent pas à se dégrader et que quand on les ingère, ils squattent chez nous dans nos corps.
Exactement, ils sont la cause de plein de maladies et c'est encore en train d'être documenté. Ça fait très longtemps qu'ils sont là et qu'ils sont répandus partout et qu'on ne les cherchait pas. Et du coup, en fait, on s'est laissé empoisonner par ces trucs-là depuis une trentaine d'années. Et effectivement, leur propriété, c'est d'être éternelle, pas être détruite. Du coup, l'industrie de la microélectronique, qui utilise plein de produits chimiques, a besoin et est très friande de ces produits qui ne sont pas altérés par les produits chimiques, en fait. Si on dit « Ah, mais vous consommez ces produits-là, ça pollue », ils ne vont pas dire « Ah bon, bah, on va arrêter ». En fait, ils ne peuvent pas arrêter parce qu'ils ont besoin de ces produits-là qui ont des caractéristiques bien particulières.
Donc, voilà. Cette eau qui arrive pure des montagnes dont l'industrie électronique se sert pour fabriquer ses composants, cette eau qui est rejetée et chargée, déjà le plomb depuis le 19e siècle, on sait que ça donne le saturnisme, voilà. Mais alors il y a plein d'autres saloperies qui se retrouvent dans l'eau et cette eau, elle est relâchée et consommée notamment par nous, espèce humaine.
Pas tout à fait. Elle est rejetée dans l'Isère. Par exemple, à Grenoble, on ne boit pas l'eau de l'Isère, on boit l'eau des champs captants plus haut, qui est l'eau très pure des montagnes, que ST utilise aussi pour sa consommation. Donc, on ne boit pas cette eau, par contre, qui va se répandre dans toutes les terres agricoles du coin, et qui va descendre, et qui va se jeter dans le Rhône, qui va aller polluer la Camargue, puis la Méditerranée.
Donc, les terres agricoles, ça veut dire que ces composants, ils peuvent potentiellement se retrouver dans les cultures, irriguées par cette eau pleine de polluants.
Tout à fait, il y a très peu d'études qui sont faites sur le sujet, nous, on pense qu'il faudra en faire. Irriguer avec l'eau de l'Isère aujourd'hui, c'est quand même un sacré pari. Quand même, il y a des choses qui sont mises en place. En fait, ils ont des stations d'épuration pour nettoyer l'eau. En vrai, ils font tout dans les règles. Sauf quand on regarde, les règles, elles sont, c'est la DREAL, qui est un organisme préfectoral qui autorise les seuils. Et quand on regarde comment est-ce qu'un seuil est fixé, c'est pas la DREAL qui va voir un médecin et qui lui demande c'est où la limite. C'est les usines, les industriels qui vont voir la DREAL et qui disent bon, bah voilà, on rejette, je sais pas, 26 mg de cuivre par litre dans l'eau. Il faut mettre le seuil ici. Et mettre le seuil ici. Du coup, voilà, on voit qu'il y a un accompagnement des pouvoirs publics à ces industriels-là et leurs nuisances.
Ah oui, parce que ça fait de l'emploi.
Exactement, c'est un énorme nœud de pouvoir, ces usines-là. Et jusque-là, eux, ça fait 30 ans ou 50 ans qu'ils sont dans la région et qu'ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a jamais de soucis ni rien. Et du coup, on est assez content avec le collectif de enfin créer un mouvement un peu massif quand même. On peut être plusieurs milliers de personnes lors de manifestations qui les empêchent de faire tout ce qu'ils veulent comme ça, sans les questionner.
Par exemple, ces fameux polluants éternels, bah, ils sont éternels, ils se dégradent pas. Donc quand ils disent que l'eau elle est renettoyée, je sais pas si c'est le bon terme derrière, en fait non, l'eau elle est chargée de trucs éternels.
Déjà, ils enlèvent pas du tout tous les polluants de l'eau, tu as raison. Il y a plein de polluants comme les PFAS, on ne les traite pas, on regarde même pas ce qui sort, donc ils sont pas traités. Et d'autres produits chimiques qu'on ne regarde pas, c'est pas tous les produits chimiques. Et par ailleurs, on ne fait pas disparaître un produit chimique en fait quand on fait ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on le sépare de l'eau et après on se retrouve avec des boues toxiques. Et du coup, il y a l'entreprise Ectra basée à côté d'ST. D'ailleurs, c'est intéressant, le patron d'Ectra est directeur de la Comcom locale. Donc on voit les conflits d'intérêts prégnants de tout ce petit milieu et qui va gérer ces boues. Et ça, en vrai, on mène des enquêtes, on n'arrive pas à comprendre concrètement qu'est-ce qu'ils font, mais ça disparaît pas en fait. On ne fait pas disparaître les produits chimiques comme ça.
Tu as évoqué la fabrication de ces puces électroniques, mais je vois plein de téléphones portables et de smartphones très intelligents cassés. Ces composants électroniques-là, ils deviennent quoi? Ils sont forcément recyclés de manière très vertueuse pour fabriquer d'autres machines, d'autres machins. Emilien, je te vois sourire de façon un peu narquoise.
Effectivement, ces composants, ils se retrouvent dans beaucoup d'objets extrêmement vertueux, donc comme les voitures électriques, dont on a beaucoup parlé des ravages causés par les batteries, etc. Ils se retrouvent dans pas mal d'objets connectés. L'entreprise, elle mise sur l'internet des objets, multiplier les gourdes connectées, le frigo connecté, et aussi dans la reconnaissance faciale, des smartphones, des robots industriels, et on a découvert aussi des armes sur différents fronts dans le monde, parce que toutes les armes sont aujourd'hui connectées, téléguidées, automatiques aujourd'hui. Après ce passage tout aussi nuisible finalement socialement dans ces objets-là, bah, ces déchets ils sont jamais recyclés finalement. C'est des composants, des produits chimiques qui sont à des si petites doses dispersées dans l'électronique que ça les rend extrêmement difficilement récupérables et recyclables. Ça finit souvent dans des décharges à ciel ouvert, il y en a particulièrement au Ghana, des immenses décharges qui polluent les rivières, etc. Et il y a toute une petite économie de gens qui récupèrent les composants, et c'est extrêmement toxique pour les gens qui travaillent là-bas. Donc voilà, ça c'est un peu le cycle de vie du début à la fin de la chaîne et que ce sont globalement des nuisances, quoi.
Donc mon smartphone super intelligent que je suis très content d'avoir parce que c'est tellement pratique, une fois que j'aurai fait tomber, que j'aurai cassé ou qu'il sera devenu obsolète, il va finir quelque part dans une décharge d'un pays du sud potentiellement, et il y a des gens qui vont s'empoisonner à le démonter. Ce n'est pas recyclé. En France, il n'y a pas une industrie qui recycle tous ses composants.
C'est exactement ça. Et dans un smartphone, il y a le tableau périodique des éléments, donc tous les atomes qui existent, qui sont dans des quantités infimes à différents endroits. En fait, ouais, ça rend le truc impossible à recycler, à récupérer, quoi, et extrêmement dangereux du coup.
Donc vous, votre asso, hein, c'est une asso d'ailleurs ?
C'est un collectif Stop Micro, c'est le jeu de mots avec l'entreprise ST Micro Electronics, nous c'est Stop Micro. De l'aube à début, c'est notre slogan, donc on a un collectif qui existe depuis 2 ans. Le slogan, il résume assez bien ce que porte le collectif, c'est déjà de l'eau, voilà, on préfère voir une eau pure et pas polluée, puis qu'on puisse consommer pour nos besoins agricoles ou au quotidien, que des puces. On critique aussi du coup les objets qui sont remplis de ces puces électroniques, la numérisation de la société qu'on ne choisit pas, qui est imposée par les pouvoirs publics qui veulent leur transition numérique, par la façon dont le travail est agencé, où on a absolument besoin d'être connecté pour ne pas perdre son emploi, pour... On n'a pas vraiment de choix individuel là-dessus, ça se numérise progressivement, et en fait on critique aussi ce modèle de société-là, quoi, le modèle connecté.
Quelles sont vos modalités d'action ? Là, de toute évidence, vous faites de l'information, parce qu'il y a plein de journaux, des brochures, je vois un journal très conséquent là, par exemple avec marqué « ST Micro, gros dégâts des eaux ».
Ça c'est un journal local qui s'appelle Le Postillon, et qui publie régulièrement des articles sur les petites absurdités et aberrations industrielles et politiques de la région grenobloise.
Une géniale du Postillon, là il y a marqué « Travail, famine, batterie ».
Mais du coup, ça c'est un journal qui nous a beaucoup aidé parce qu'il a apporté de l'information, de l'enquête, et on en a produit aussi beaucoup dans le collectif, là, à travers les petites brochures qui parlent de à quoi servent ces puces, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'eau, comment ils la polluent. Un gros travail d'enquête pour comprendre un petit peu ce monde qui est extrêmement complexe, qui sert aussi à ce que nous, on ait les bonnes cibles et on puisse avoir les arguments incisifs, etc. On ne fait pas que de l'enquête. Toi, tu veux parler des...
Je te tends mon petit magnétophone numérique. Je te rassure, il est bio, il n'y a pas de puce électronique dans cet appareil dans lequel tu t'apprêtes à parler, Lucas.
Il n'y a pas de souci, nous aussi on utilise des ordinateurs, des téléphones. On ne pense pas du tout que c'est des comportements individuels qu'il faut cibler, c'est pour ça qu'on cible ces industries-là, qui sont très bonnes cibles et qui ne sont pas Michel qui a un smartphone, on s'en fiche en fait, c'est pas ça la question. Et nous, en plus des enquêtes, on a fait pas mal d'agitation, que ce soit... quand ils font leur anniversaire en grande pompe, aller leur pourrir la fête en expliquant qu'est-ce qu'ils font. Que ce soit des envahissements de la Dréal, normalement tout le monde s'en fout un peu, on voit pas ça comme un gros enjeu de pouvoir, surtout en tout cas à Grenoble où il n'y a pas tant d'histoires avec les agriculteurs et l'eau, jusqu'ici. Pour cibler que ici il se passe quelque chose, les conseils communautaires où on se dit qu'il se passe rien, où en fait c'est là qu'ils fixent les seuils, en fait c'est un endroit où la décision est prise de dire bon bah voilà, le seuil il sera là. Et sinon on a fait aussi des mobilisations plus massives, des grandes manifestations. En avril 2022-23, on était 1000 à manifester devant les usines, à Crawl, là où il n'y a jamais de manifestation pour dénoncer ces usines. Et cette année, en avril 2024, on a fait un gros week-end de mobilisation où on a été 2000 à marcher à Grenoble sur la presqu'île scientifique où se trouvent les centres de recherche et développement de ces usines et le commissariat à l'énergie atomique. Parce qu'on n'a pas dit, c'est que ces deux usines, elles émanent du centre à l'énergie atomique grenoblois, qui est la recherche publique et qui est transférée à du privé quand c'est des applications qui les intéressent. Par ailleurs, on a fait d'autres actions un peu plus sur le mode du surgissement où on a bloqué cette presqu'île à une centaine à la fin de la mobilisation avec les faucheurs volontaires et les soulèvements de la terre locaux. Et voilà, donc on réfléchit à plusieurs types d'actions, que ce soit de l'enquête ou que ce soit plus de l'agitation. Voilà.
Tout jeune collectif, Stop Micro, qui a 2 ans, qu'est-ce qui a été la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres pour cette création ?
Les informations, c'était un article du Postillon justement qui parlait de la consommation d'eau et de son projet d'agrandissement, et c'est le fait que, au final, on pourrait presque, même si on a envie de le dire, remercier Emmanuel Macron d'être venu en 2022 en grande pompe, en pleine sécheresse, annoncer l'agrandissement de cette usine et l'injection de 3 milliards d'argent public pour l'extension de cette usine, en pleine sécheresse, alors que la consommation d'eau allait doubler avec cette extension. Et du coup, c'est ça qui a déclenché la création du collectif. Du coup, il y a ST et Soitec qui doivent s'agrandir. ST, là où on en est, c'est qu'ils ont construit la moitié des bâtiments d'agrandissement qui est à l'intérieur de leur usine, mais qui ne sont pas encore mis en service parce qu'ils n'ont pas toutes les autorisations encore. Du coup, nous, on participe avec des avocats, des juristes à des mises en demeure pour les ralentir sur le plan juridique, même si on sait très bien qu'à la fin, le préfet va mettre le tampon. En fait, il y a 3 milliards d'argent public sur la table. Le préfet, il va dire oui. Mais ça les ralentit. et Soytech, son projet d'agrandissement, en était qu'à la préemption des terres agricoles pour sa construction. Suite à la mobilisation, a suspendu son agrandissement. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir un chantier, on a encore des noyers et du blé à côté de Soytech. Et nous, on en est très contents. C'est une belle victoire. Voilà.
Il faut toujours des avocats et des scientifiques en fait hein, dans ce genre de lutte.
Bah nous on fait feu de tout bois, hein. On se définit pas par nos moyens d'action. Nous quand on pense qu'il faut faire des enquêtes, on fait des enquêtes. Quand on pense que c'est des recours juridiques, on fait des recours juridiques. Et quand on pense que c'est des manifestations, on fait des manifestations quoi. Et là, jusque là on fait un peu tout. Même si on se leurre pas, la loi elle est faite pour eux. Mais des fois il y a quand même des trucs un peu étonnants qui peuvent se passer. Ou leur faire perdre du temps, nous en faire gagner, enfin voilà.
Donc ce faisant, vous vous êtes fait plein d'amis en fait, hein, c'est-à-dire une grosse industrie, l'industrie du flicage, l'industrie du militaire, l'État.
Et bah nous, c'est ce qu'on trouve intéressant avec la critique de ces usines, c'est qu'en fait quand on parle de ces usines, c'est tout le monde dont on parle en fait. On parle des rapports de pouvoir que ces technologies créent à l'intérieur de nos pays, à l'international, avec les rapports nord-sud pour l'extractivisme ou les déchets ou la production de certains composants. Ça parle à l'échelle nationale du fait non démocratique de ces usines. Par exemple, il y a la loi ZAN de non-artificialisation des sols en France qui empêche normalement ces projets-là d'exister. On se dit, ah bah super, et bah qu'est-ce qu'ils font? Ils font la liste des projets d'intérêt national qui outrepasseront cette règle. On vous invite d'ailleurs à regarder cette liste parce que c'est vraiment la liste des projets à contester. Quoi. Il y a toutes les merdes, elles sont mises là-dedans. Les centres pénitentiaires, les usines nucléaires et microélectroniques, par exemple, sont dedans. Enfin, voilà.
Pour en savoir plus, StopBus, il y a un site internet électronique. Donc.
On est dans une société numérisée qui utilise du numérique. On l'utilise aussi, on a un site internet. On agit contre ceux qui favorisent la numérisation à outrance de la société. Mais individuellement, finalement, on n'a pas vraiment le choix de s'extraire de la société en visant une pureté et de ne jamais utiliser
le
numérique.
Mais le pigeon voyageur, c'est sympa, mais ça ne va pas vite. Quoi.
Oui, voilà, c'est pas adapté, disons, à la vie en société telle qu'elle est aujourd'hui. Quoi. Et du coup, on a un site internet qui s'appelle stopmicro38.noblogs.org. Si vous voulez faire des trucs avec nous, rentrer en contact. On est basé à Grenoble. On a fait aussi un tour en France, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Paris, pour faire des conférences publiques. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pouvez nous contacter. stopmicro@riseup.net.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Nous nous rencontrons à la table de Scientifiques en Rébellion.
Voilà, ouais, je suis impliqué dans Scientifiques en Rébellion depuis 2 ans.
Quelle est ta spécialité ?
Je suis en sciences de la Terre.
Aujourd'hui, avec cet article édité dans le Diplo de mars 2024, écrit à 6 mains, Laurent Husson, qui est l'un des rédacteurs de cet article, éviter l'autoritarisme climatique, l'adaptation plutôt que la lutte contre le dérèglement. La conférence mondiale sur le climat organisée à Dubaï s'est achevée sur une timide invitation à opérer une transition vers une sortie des combustibles fossiles, entre guillemets, et à mettre en œuvre des politiques d'adaptation. En France, ce concept fait l'objet de plans quinquennaux, dont la troisième mouture, reportée à l'été, accentue les ambiguïtés et soulève les plus grandes appréhensions. Chapeau, qui n'est pas de votre plume, du coup, aux trois auteurs.
Oui, il a été réécrit en grande partie par le journaliste éditeur du Diplo. De même que le titre qui a été changé sans nous prévenir avant impression, le titre était plus acide, hein, c'était « L'adaptation au changement climatique, un plan politique de contrôle total ». Plus conforme à ce qu'on voulait dire.
Oui, ça fait plus alternative libertaire et pas trop monde diplomatique.
C'est probablement ça. Que... C'est un peu ce que Philippe Descamps m'a répondu. Il m'a dit « Oui, c'est fait exprès ». On avait rédigé dans l'article que sur le productivisme, c'était évidemment une menace dans le contexte du changement climatique et que c'était le fait du capitalisme qui avait demandé une adaptation. Mais on avait marqué aussi que les socialismes ont aussi fait la même chose. Et Philippe Descamps avait changé ça en des expériences socialistes parce qu'on ne pouvait pas dire ça dans le diplôme.
On les reconnaît bien là. Mais c'est quand même un chouette journal. Le diplo est un outil critique. Éduqué au diplo, ben on peut même critiquer le diplo.
En principe.
Donc revenons-en au titre choisi par Philippe Descamps. Éviter l'autoritarisme climatique.
On reste dans l'idée. Non, l'article n'est pas travesti pour autant. Et merci au diplo d'avoir fait ça.
On va citer les deux autrices qui sont les quatre autres mains de cet article. Donc il y a toi, Laurent Husson. Il y a Fabienne Barato. Et Stéphanie Mariette.
Voilà, après, il y a d'autres gens qui ont travaillé dessus dans le groupe des scientifiques en rébellion. Le diplo ne prend pas de signature collective, c'est pour ça qu'on a signé en nom propre.
Que dit ce papier ?
Alors, ce papier, il reprend l'idée de l'adaptation, puisque c'est un terme qui rentre de plus en plus dans le vocabulaire institutionnel, en substitution du vocable de atténuation. Au début, ça fait peur. On se dit, mince, si les institutions se mettent à parler d'adaptation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un renoncement à l'atténuation. Or, en réfléchissant un petit peu plus loin, on réalise que quand même s'il est impératif de poursuivre les efforts d'atténuation, négliger l'adaptation face à un changement climatique qui de toute façon est là, ce serait une folie tout aussi importante. Donc c'est bien que les institutions s'en emparent, mais la question est de savoir comment ils s'en emparent. Et c'est ça qu'on explore dans ce travail. Et en fait, il s'en empare par la voix de Christophe Béchu, par exemple, ministre de l'Environnement, avec une naïveté cruelle. Alors, est-ce qu'elle est feinte ? Tranchée entre le cynisme, la bêtise ou l'ignorance, c'est le triangle éternel de discussion. Mais je crois résoudre cette question, je ne crois pas que ce soit un enjeu. Toujours est-il qu'on en est là, et l'institution, quand elle communique sur l'adaptation, c'est un niveau pathétique d'ingénuité, parce que... Si on lit les documents qui sont fournis par le ministère de la Transition écologique, on comprend que le climat va probablement continuer à se dégrader avec des températures probablement allant vers plus 4 degrés en France métropolitaine. Christophe Béchu nous dit oui, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir faire des choses, des trucs terribles. Par exemple, il nous dit qu'il va y avoir des routes inondées. C'est touchant de naïveté. Enfin, à plus 4 degrés, c'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Or, quand on décrypte les documents de travail qui sont fournis par le ministère, on se rend compte que l'objectif de l'adaptation, ce n'est pas s'adapter à un environnement physique qui soit dégradé, mais s'adapter à une économie, un fonctionnement économique qui doit rester inchangé. On sait que ça aura des conséquences sur l'environnement physique, qui va continuer à se dégrader, et ainsi, toutes les sphères de la Terre vont devoir s'adapter, non pas s'adapter à l'environnement physique, mais finalement, in fine, s'adapter à un système économique qu'on ne peut pas toucher. C'est le paradigme de réflexion qui transparaît sans ambiguïté dans les documents du ministère. L'objectif, c'est comment faire pour adapter nos entreprises pour qu'elles puissent continuer à faire ce qu'elles font déjà maintenant, malgré les difficultés qui vont être croissantes.
Qu'on cote le vivant en bourse.
Ce serait une forme d'adaptation, c'est ça que tu dis ? Ce serait une forme d'adaptation. Ouais. C'est ça déjà de toute façon ce qui est en train de se passer. Hein. Une monétarisation du changement climatique qui transparaît à plein d'endroits. Donc, c'est pas si absurde que ça ce que tu dis finalement. Après, est-ce que ce sera bénéfique ? On a du mal à croire que ça le sera. Mais oui, il y a une financiarisation du changement climatique, c'est sûr.
Là, tu parlais de soumission au système capitaliste, hein, on va dire ça pour être rapide, d'ingénuité, de naïveté. Est-ce qu'il y avait aussi une histoire de dogme, de croyance ? On va pulvériser je ne sais quoi dans les nuages pour faire pleuvoir. Ne vous inquiétez pas, la science trouvera des solutions.
Oui, c'est la branche technosolutionniste qui envisage ça. Dans cet article dont tu parles, pour le discréditer, on fait référence à une BD de Peyo de 1969, je crois, le Schtroumpfeur de pluie, qui met en scène un conflit sur l'artificialisation du climat, qui sème la zizanie, tout se dérègle, et c'est la catastrophe. Blague à part, ces enjeux-là, c'est réellement ce qui risque de se passer. Le technosolutionnisme, pour l'instant, n'est absolument pas au début du commencement du raisonnable. Donc c'est une promesse fondée sur absolument rien du tout pour l'instant, mais ça a le mérite, pour les pouvoirs publics, pour le système capitaliste, appelle-le comme tu voudras, de reporter sine die des décisions qui seraient coûteuses et qui remettraient le paradigme, le dogme auquel tu te faisais référence. Effectivement, ça permet de continuer en espérant que, ou en feignant d'espérer. Peut-être par une paresse intellectuelle, c'est possible.
Quand tu parlais de plus 4 degrés en France, c'est quand ?
Plus 4 degrés, la référence qu'ils prennent, c'est fondée sur les scénarios du GIEC. Hein, et c'est le scénario qui est considéré comme médian, avec des politiques qui contrôlent un peu l'excès, qui nous mèneraient dans le scénario le pire, c'est plus 8, ou par là. Donc c'est un scénario qui reste contrôlé, qui fait des hypothèses très fortes en fait de stabilité des systèmes politiques, diplomatiques, de tous les enjeux migratoires, d'une capacité de stabilisation du monde pour pouvoir continuer ainsi à arriver plus 4 degrés en 2100. Et je pense que c'est un endroit où le GIEC pêche un petit peu, c'est que cette supposée stabilité, elle n'est pas fondée sur grand-chose. En fait, le GIEC le reconnaît à mi-mot, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça risque quand même de dévisser. L'économie va dévisser à cause de la pression environnementale. Il y a beaucoup de choses qui vont dévisser, il y a des conflits qui vont apparaître, qui sont des facteurs d'aggravation. Le GIEC fait l'impasse là-dessus, considère que tout continue dans la normalité. Donc simplement, on tourne le bouton du thermostat progressivement et on arrive in fine à plus 4 degrés. Mais il y a tellement de choses qui vont changer avant d'arriver à plus 4 degrés que c'est même pas acquis qu'on arrive à plus 4 degrés. C'est possible que tout dégringole avant. On part dans une zone inconnue. Bien avant d'arriver à plus 4 degrés, on est dans une zone inconnue pour tous les systèmes écologique, mais aussi économique, politique, diplomatique. Là, c'est la terra incognita. On ne sait pas ce qui va se passer à partir de plus de degrés. On voit déjà qu'il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont de plus en plus instables. Ce qui m'amène à un aspect qui me semble vraiment majeur, c'est l'aspect de la coercition, puisque les seuls, finalement, qui semblent prendre au sérieux et comprendre le changement climatique, paradoxalement, sont les militaires. Bon, les assurances aussi, mais sur les pouvoirs publics sont les militaires, les armées. L'adaptation au changement climatique, c'est priorité numéro 1 pour l'OTAN, c'est priorité numéro 1 pour la défense US. Ils y font une grande attention pour différentes raisons. Et c'est quelque chose qui est assez curieux, c'est que dans les documents auxquels on a accès, c'est présenté comme un package plutôt bienveillant, où une part est dédiée à l'adaptation au changement climatique, aux désordres environnementaux qui vont causer plein de catastrophes naturelles auxquelles il faudra répondre. Et souvent, c'est l'armée qui va être en mesure de répondre à ces catastrophes naturelles. Et du coup, ça, on a l'impression que c'est plutôt une bonne idée quand même. Effectivement, je pense que si l'armée pouvait répondre et agir en cas de catastrophe naturelle, j'ai du mal à trouver que ce soit une mauvaise chose qu'elle mette ses moyens à disposition. Ok, le deuxième volet dont il parle, c'est le soldat du futur.
Oui, ça change l'équipement, hein, des degrés en plus.
Un équipement de travail par 50 degrés en terrain hostile, c'est pas forcément le même. Même la mécanique, ils sont inquiets sur la mécanique de leurs engins, qui risque de dysfonctionner en cas d'aggravation environnementale dans bien des endroits. Le troisième volet, qui est le plus critique, c'est la coercition. Et c'est présenté dans le même volet. La coercition, c'est-à-dire qu'avec cette dégradation environnementale dans le monde entier, il va y avoir de plus en plus de conflits. C'est perçu par les militaires que le changement climatique est perçu comme un facteur d'aggravation dans les zones qui sont déjà instables et qui vont les faire basculer dans l'instabilité politique complète. Donc il va y avoir des révoltes, en gros, des émeutes, des révoltes qui vont menacer les institutions, etc. Et pour cette raison, les militaires du monde entier sont très préoccupés et développent la coercition pour maintenir ces peuples qui vont être en colère, hein, légitime, puisqu'ils vont être de plus en plus en difficulté.
Ce que tu es en train de me dire, là, c'est du travail de police, en fait.
Ce qui est curieux, c'est que les militaires le présentent dans le même document par rapport à la chose bienveillante qui est de prendre soin des populations exposées aux catastrophes naturelles, mais en même temps, d'exercer la coercition sur ces populations qui vont être révoltées, des flux migratoires qu'il va falloir contrôler. J'ai cité l'OTAN et j'ai cité US Defense. L'idée derrière ça, c'est qu'il va falloir défendre ce système capitaliste idéologisé par l'Occident.
Et là, non seulement vis-à-vis de l'extérieur d'autres pays, mais de l'intérieur aussi. Et c'est ce que j'entendais par police. Enfin voilà, on est là pour protéger le sol national contre des ennemis de l'extérieur. Mais là, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est aussi l'ennemi potentiel de l'intérieur.
Ah, bien sûr, ouais. Et là, j'étais à une table ronde tout à l'heure. Il y avait des gens qui venaient témoigner du Chili. qui racontait que les militants environnementaux se font attraper, non pas par la police, mais par l'armée. C'est l'armée qui est au service des industries qui sont minières, en particulier, je pense, au Chili. Hein, et c'est l'armée qui intervient et qui attrape les militants, ou les assassine éventuellement. Mais le gros boulot des armées dans cet exercice de coercition, ça va être aussi de contrôler les flux migratoires. Donc là, on utilise la coercition. Pour l'instant, c'est une extermination qu'on pourrait dire passive. Par exemple, ce qui se passe dans la Méditerranée, c'est semi-passif. Mais à plus 4 degrés, ce sera plus tenable. Et probablement, mais ça, évidemment, j'ai aucune preuve, et c'est évidemment pas dissible, mais probablement qu'ils ont dans un coin de la tête de l'extermination active des populations. Puisqu'à plus 4 degrés, ça ne sera pas tenable avec la population mondiale actuelle et le système capitaliste, le système technicien aussi, hein, tel qu'il est actuellement, ça ne sera pas tenable. Donc, j'ai aucune preuve, évidemment, mais ça me paraît incontournable à plus 4 degrés de contrôler les populations, y compris les démographies, par des campagnes d'extermination peut-être. À plus 4 degrés, il faut quand même prendre conscience qu'il y a des pays entiers comme l'Indonésie, presque 400 millions d'habitants quand même, qui seront complètement invisibles, inhabitables. On ne pourra plus, pour des raisons de thermorégulation, l'humidité et la température feront qu'on ne pourra plus vivre dans ce pays-là. Ce sera des conditions mortelles. Que faire de ces presque 400 millions de personnes ? Soit on les accueille, mais je ne suis pas sûr que le système technicien et le système capitaliste soient prêts à faire le geste de les accueillir sur des terres plus hospitalières. Ce qui se dessine, si on décide de préserver ces systèmes, c'est d'en venir à l'extermination active cette fois-ci. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. Ça explique pourquoi ce sont les militaires qui s'intéressent le plus sérieusement à la question de l'adaptation au climatique. En comparaison, l'adaptation façon Christophe Béchu, c'est vraiment truffé de conneries, quoi. C'est des bivesées, c'est ridicule. Il n'est jamais question de budgéter ça. C'est sans comparaison, là. Si ça continue à dégringoler, si aucune mesure sérieuse n'est prise pour juguler les désordres environnementaux, donc travailler sur l'atténuation, il y a trois modes de gestion politique qui vont arriver. L'une serait ce que certains appellent le carbofascisme. Les héros du carbofascisme seraient par exemple Milei en Argentine ou Trump aux États-Unis. Cramons tout et opposons-nous à la contestation et après moi le déluge. Donc ça c'est le fascisme carboné, on va dire. À l'autre extrême, ce qui est aussi une menace, ce serait l'écofascisme où tout serait strictement contrôlé et priverait également les gens de leur liberté de façon absolue pour préserver in fine la survie, hein, ce qui ne semble pas désirable non plus. Et la troisième voie, ce serait l'autoritarisme climatique, c'est-à-dire que les désordres vont arriver les uns après les autres et on y répond à la petite semaine. On jugulifie, on fait ça. On ne va pas faire des décisions massives, mais à mesure que ça vient, on va augmenter l'autoritarisme pour contraindre les populations et surtout préserver le système néolibéral, en fait, en l'occurrence. C'est pour ça que je pense qu'on peut beaucoup l'associer au néolibéralisme et donc à Macron, en fait, cet autoritarisme climatique qui nous pend au nez dans bien des sociétés. Là, actuellement, on voit bien qu'on bascule, on hésite entre néofascisme ou néolibéralisme.
Pourquoi pas les deux en même temps, ça marche très bien.
Le carbofascisme, je ne pense pas qu'on puisse qualifier Milei ou Trump de néolibéraux, puisqu'ils ne sont pas traitement branchés sur le contrôle étatique. Le néolibéralisme, il fait appel au pouvoir public pour servir de brise-glace au libéralisme, ce qui est la rupture avec le libéralisme ancien, qui serait plutôt, à mon avis, effectivement, ce que prône Trump, ou une tangente qui s'est dessinée depuis les années 30.
Donc voilà pour ce papier du Monde diplomatique, éviter l'autoritarisme climatique. Pour revenir sur le collectif auquel vous appartenez, Scientifique en rébellion, là, par exemple, ce que tu dis est assez peu audible dans les médias dominants. Heureusement qu'il y a le diplôme, par exemple. Mais et j'en viens sur l'indépendance de la scientifique. Bon, même s'il y a encore une certaine liberté universitaire, quoique le privé s'infiltre beaucoup dans les labos, quand Total finance une partie d'un labo en sciences de la Terre, je pense que ça ne doit pas faire les mêmes résultats. Ça pose aussi la question de l'indépendance du scientifique. Et là, je suis assez surpris. Là, ce que tu dis et ce que vous écrivez dans cet article du Diplo, on l'entend peu. Qu'en est-il de l'indépendance du scientifique ?
Un argument auquel tiennent beaucoup les scientifiques, c'est la notion de liberté académique. Donc on a le droit de travailler sur n'importe quel sujet. Il se trouve que les gens ne s'en emparent pas, pour différentes raisons, j'y reviendrai après. Et l'autre, c'est la notion de neutralité. La science serait neutre, or c'est complètement faux de penser ça. Non pas parce que les gens sont vulnérables ou bêtes, ou malveillants ou quoi. La première raison, à mon avis, c'est parce qu'on est imprégné d'une culture, qui est celle qui, pour des raisons matérialistes, qui fait que ce que je suis aujourd'hui est le résultat de ma culture. Et du coup, je suis influencé par cette culture, ce qui fait que mes choix, je ne peux pas m'en défaire, je ne peux pas faire extraction de mon passé, de ce qui m'a construit. Donc cette neutralité scientifique, pour cette raison, je pense que c'est complètement vain d'essayer de l'invoquer. Voilà. Je ne suis pas neutre, parce que je suis le fruit de mes expériences. Et une autre raison pour laquelle cette neutralité est mise à mal, c'est les pressions extérieures, cette fois-ci, desquelles on peut se prémunir, dans ce cas-là, qui sont les pressions économiques, politique. Tu mentionnais le cas de Total qui pourrait être tenté de financer les sciences de la Terre. Moi, je suis issu d'un labo de sciences de la Terre. Total était un gros financeur de pas mal de sujets de recherche de mes collègues. C'est toujours un petit peu détourné. Hein. C'est pas eux qui allaient trouver le pétrole, c'est pas eux qui allaient émettre le CO2, mais ils allaient raconter l'histoire géologique de telle région. Moi, je fais que décrire l'histoire géologique de cette région. Je ne cherche pas du pétrole. Il se trouve que Total est intéressé pour le financer. Tu vois, c'est ce genre de raisonnement qui, dans la tête d'une personne comme ça, se paraissait comme une action neutre, finalement. Il se trouve que Total avait envie de financer cette action neutre. On en parlait tout à l'heure, hein, quand même, la majorité des collègues a du mal à s'interroger en profondeur.
Est-ce qu'on fait de la philo quand on fait des études scientifiques? Je sais qu'en médecine, ils n'en font pas, par exemple. Hein, mais,
ouais. Ah, mais si tu savais à quel point on n'en fait pas. Dans la formation universitaire, on fait de la philo que quand on est inscrit en licence de philo. Si tu fais une licence de géologie, il n'y a pas d'épistémologie, pas de philo, pas de sciences sociales, rien. On apprend à résoudre des équations et puis c'est tout.
Donc pas d'histoire.
Pas d'histoire, rien.
C'est la science qui flotte dans les limbes.
Complètement. Et alors quand on en parle aux étudiants, ils adorent ça. Ils adorent ça. Occasionnellement, ils peuvent aller prendre une UE à l'université qui est ouverte à tous, d'épistémologie, de critique des sciences. Ils adorent, ils sont tellement contents. Ça, c'est la première fois qu'on leur en parle. Ils sont extrêmement demandeurs. Mais ça leur est pas offert par défaut. Et c'est vraiment un tort de l'université de pas faire ça. Ça éviterait pas mal de choses, dont un peu j'allais dire la bêtise, mais c'est un peu cruel.
L'inconscience.
L'inconscience, ouais, de tous les collègues qui ont l'impression de bien faire leur travail. Effectivement, ils le font bien. Ils ont l'impression de le faire bien dans une plus pure neutralité. Et probablement que s'ils avaient fait deux sous d'épistémologie, ils se rendraient compte que ça ne tient pas debout, quoi. C'est très dommage. Mais les étudiants sont tellement demandeurs, j'ai l'impression que ça pourrait arriver, que ça rentre dans les formations.
On va se poser d'autres questions, d'autres types de questions.
Ah ouais, parce que les étudiants sont les jeunes, ils sont tellement inquiets pour des raisons évidentes qu'ils demandent ces trucs-là. Donc j'espère que les universités vont être à la hauteur et répondre à cette demande.
On voit d'ailleurs, pas seulement dans le milieu scientifique, mais d'autres de ces jeunes gens brillants qui sortent diplômés d'écoles prestigieuses et qui font des conférences de presse pour dire « nous, on refuse de collaborer à la destruction de notre biotope et de notre espèce et des autres. Voilà, on ne marche pas dans la combine. » Effectivement, c'est l'urgence. Enfin, y a des gens qui ont compris que la planète brûle.
Un autre exemple, hein, je participe à un master de sciences de la Terre qui est divisé en plusieurs morceaux. Les sciences du climat, par exemple, qui regorgent de demandes d'étudiants pour s'intéresser aux sciences du climat. Et puis on a aussi le parcours qui s'appelle Géoressources. Cette année, plus personne n'a voulu s'y inscrire. Je pense que ça en dit long sur les souhaits des jeunes. La liberté académique, j'en ai parlé brièvement. Je pense que c'est vraiment important, mais c'est aussi important de réaliser qu'il faut s'en saisir. Et peu de gens le font, en fait. Donc le collectif des scientifiques en rébellion le fait. Ce qui est aussi un argument pour légitimer le fait qu'on s'intéresse à plein de sujets, y compris ceux qui sont en principe pas forcément de notre expertise propre à chacun. Ici, on n'est pas tous hydrogéologues, et pour autant, on pourrait prendre la parole avec plus ou moins d'aisance sur les enjeux des mégabassines. Parce qu'on est capable de comprendre les productions de nos collègues, c'est pour peu qu'on s'y intéresse, et puis on a le droit de revendiquer ça au nom de la liberté académique, de s'y intéresser. C'est ce truc-là qui me semble important aussi. Que les gens s'emparent de la liberté académique pour critiquer tous azimuts et explorer et comprendre le monde. C'est ça notre boulot, hein, c'est de comprendre le monde. C'est pas de comprendre un petit bout de recoin et rester dans un même chemin jusqu'à la fin de notre carrière scientifique. Hein. No Basaran.
Et voilà les amis, c'est ici que prennent fin ces quelques échanges avec des scientifiques en rébellion rencontrés sur le village de l'eau. Émission à télécharger via notre site polémique-c'est-la-voix-off.com.
où figurent aussi les coordonnées des divers collectifs qu'on a rencontrés aujourd'hui. En attendant le prochain épisode de cette série, rendez-vous sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat, continuant le début, Nobasaran.